Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert.
De la Calabre à Miami, Gianni Versace a marqué l'histoire de la mode, l'histoire de l'art d'ailleurs, avec un style flamboyant, des couleurs vives, des imprimés si reconnaissables. Pop art, modernisme italien, influence punk parfois, Lucas Agi d'autrefois, des collaborations avec des icônes de la pop, avec des figures du théâtre, de l'opéra et de la danse. Après Londres, Berlin et Malaga, l'exposition événement est à Paris, un immense podium pour découvrir, redécouvrir un immense créateur au musée Mayol jusqu'au 6 septembre, on en parle dans Iconic Business dans un instant avec Vincent Barenèche de Caramba Culture Live. Exposition aussi à découvrir cet été à Fontainebleau, des costumes de Christian Lacroix inspirés par Marie-Antoinette, tous les détails à venir. Et dans les désirables de la semaine, les aspirations des voyageurs premium en France et l'abécédaire du luxe en 2026, du moins sur ce premier semestre, ce sera avec Eric Brionne. C'est Iconic Business, bienvenue. Avant de retrouver, je vous le disais, le look flamboyant, l'art de Gianni Versace, détour par Fontainebleau, le château de Fontainebleau, où on retrouve Muriel Barbier, directrice du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau. Merci d'être avec nous à distance, bienvenue. C'est une exposition aussi à découvrir cet été à Fontainebleau. La particularité, c'est que ce sont des costumes de Christian Lacroix et pas des costumes d'époque, inspirés par Marie-Antoinette, c'est cela ?
C'est bien cela, oui, oui, les costumes sont des créations que Christian Lacroix a réalisées en 2019 et qui nous permettent d'évoquer la mode du temps de Marie-Antoinette et de Louis XVI dans les salles du château, puisque comme vous le savez, les costumes anciens sont très rares et fragiles à préserver et à présenter. Donc c'est une astuce qui nous permet de faire le lien entre la mode d'aujourd'hui et la mode du XVIIIe siècle.
Et ces costumes, ils ont une histoire aussi tout particulièrement. Il y a combien de silhouettes d'abord qui vont être dispersées, qui sont dispersées dans le château ?
Alors ces costumes, ils appartiennent à l'Opéra Comique à Paris. Ils nous ont été prêtés pour cette présentation. Il s'agit de 11 silhouettes qui ont été réalisées par Christian Lacroix pour le Postillon de Longjumeau, qui est un opéra comique créé en 1836 et présenté à l'Opéra Comique en 2019 dans une mise en scène de Michel Faux.
Pourquoi le choix de ces costumes et pourquoi les avoir intégrés ? On sait que ça se fait de plus en plus de découvrir la mode à l'intérieur de ces édifices et de ces lieux marqués d'histoire. Pourquoi vous avoir sauté le pas et avec quoi on ressort justement de cette exposition ?
Le château de Fontainebleau, depuis le mois de mars 2026 de cette année, a une saison autour de Marie-Antoinette et de Louis XVI à Fontainebleau, puisque ses souverains sont venus 11 fois à Fontainebleau tout au long de leur règne. Et nous souhaitions évoquer l'importance de la mode à la cour de Louis XVI et de Marie-Antoinette dans le parcours de visite, donc par le biais de ces costumes-ci. L'apport pour le visiteur du château, c'est de voir finalement des personnages dans les décors. Cela redonne vie au lieu. Nous avons choisi de marier les couleurs des costumes avec les décors de certaines salles du château. Et réellement, la visite prend une nouvelle proportion. On se retrouve un peu plus immergé dans la visite du château et on est un petit peu comme propulsé à la fois dans le XVIIIe siècle et en même temps dans une version un peu plus onirique que nous propose Christian Lacroix ici.
Et puis finalement, on en revient à cette figure, à cette icône au final de Marie-Antoinette parce qu'elle a imprégné vraiment la culture contemporaine, la culture moderne. Elle avait déjà une telle influence à l'époque et c'est une influence qu'elle a gardée après en devenant une figure culturelle.
Oui, elle a gardé une énorme influence. Alors d'abord, à son époque, au sein de la société de cour, vous savez qu'elle avait une marchande de mode qui s'appelait Rose Bertin, qui débordait d'idées, qui lui a proposé des multitudes de silhouettes, de couleurs, de rubans et de dentelles. Et à partir de ce que lui créait Rose Bertin, les dames de la cour suivaient cette tendance. plus tard, et c'est le cas notamment à Fontainebleau, également dans l'ameublement, les impératrices Joséphine puis Eugénie sous le Second Empire avaient voué même un véritable culte pour Marie-Antoinette. Elle recherchait des objets qui lui avaient appartenu. Il y a une sorte de mythe, oui, qui s'est créé autour d'elle, autour de son élégance, du raffinement de ses choix, qui est resté très marqué au monde de la mode. Et Christian Lacroix lui-même, pour la création des costumes du postillon de Longjumeau, s'est beaucoup inspiré des costumes que l'on voit sur les portraits peints par Elisabeth Louise Vigée Lebrun de Marie-Antoinette, mais il avoue lui-même que c'est aussi un petit peu une visite, il revisite à sa manière la mode du XVIIIe siècle, tout en en créant une sorte de petite parodie, puisqu'on est là dans le contexte d'un opéra comique. Donc Marie-Antoinette, pour cette élégance, pour cette audace aussi parfois dans le choix des formes et des coloris, est restée une grande inspiratrice pour les créateurs du XXe et encore du XXIe siècle.
Merci beaucoup Muriel Barbier, directrice du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau, d'avoir été dans Iconic Business. Tout de suite, on va retrouver Vincent Barénège de Carambra Culture Live. Une exposition tout l'été à découvrir au musée Mayol, une première depuis plusieurs décennies en France, une rétrospective autour de Gianni Versace. Nous sommes donc avec Vincent Barénège de Carambra Culture Live avec cette exposition dédiée à Gianni Versace. Bonjour.
Bonjour.
Paris était incontournable pour le couturier. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'il y ait une exposition de cette envergure à Paris ?
Alors la présentation de l'exposition correspond à, j'ai envie de dire, une double date d'anniversaire. Cette année, Gianni aurait eu 80 ans et on est à l'aube des 30 ans de sa disparition. Et écho avec Paris lié à cette disparition, la dernière fois que Gianni Versace a été vu en public, c'est lors d'un de ses iconiques défilés au Ritz, c'était en juillet 97, et 9 jours plus tard, il était dramatiquement assassiné devant sa villa à Miami. Et donc la dernière fois qu'il a été vu en public et dans son univers, c'est véritablement à Paris. Et donc Gianni est de retour à Paris.
Un itinéraire de la Calabre à Miami en passant évidemment par Paris, on va y revenir. Près de 450 pièces pour cette exposition. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des accessoires, des silhouettes évidemment, mais aussi beaucoup de croquis ?
Tout à fait, donc plus de 450 pièces de collection, dont 130 tenues, datant pour les premières d'une collection printemps-été 81 et allant jusqu'à ses toutes dernières pièces, donc pour la collection automne-hiver 97-98. 130 tenues sur silhouette, accompagnées d'une panoplie d'objets de collection, de petites maroquineries, de livres de collection, d'invitations d'époque à ces prestigieux défilés, des croquis également de Werner, qui était croquettiste pour la maison Versace, des croquis originaux, et également des photos de collection de photographes de renom, Richard Avedon, Newton, Guy Marino, voilà, qui viennent accompagner ces silhouettes iconiques.
Pourquoi cette sélection et quels choix ont été faits, ou en fait c'était l'idée d'avoir une telle agrégation, de rassembler le plus de pièces qui correspondaient à son univers et à sa vie, son œuvre ?
Alors, il y a une vraie vision pour l'exposition à Paris. C'est une exposition qui a été présentée dans d'autres villes, à Londres, à Berlin, en Espagne. Pour Paris, il y a un focus aussi bien scénographique que dans la curation, que dans le choix des pièces présentées, autour du concept de défilé. Parce que le lien entre Gianni et Paris, c'était les catwalks, c'était les défilés au Ritz. Et donc, il y a une approche à la fois chronologique de sa carrière, de sa vie, de son œuvre, et une approche également autour des atmosphères, des univers propres à Gianni Versace. Comme vous l'avez dit, on part en Calabre, on a l'écho avec la mythologie grecque, la méduse. Ensuite, on part dans des esthétiques plus punk que Gianni Versace appréciait beaucoup, l'esthétique punk, bondage. On a également les fameuses chemises en soie avec ces impressions exubérantes.
Donc le Paris, baroque est bien représenté.
Absolument, également le baroque qui est un imprimé, un style qui a été créé par Gianni Versace et qui demeure le style le plus copié dans l'histoire de la mode. Donc voilà, pour Paris, des défilés qui traversent des catwalks, qui traversent le musée Mayol et cette thématique autour des grandes collections.
C'était une nouvelle manière aussi de raconter la mode, de raconter la vie d'un créateur. Il y a eu beaucoup d'expositions de cet ordre ces dernières années. Est-ce que là aussi, c'est un moyen de se différencier et de rentrer dans un univers si différent et si exubérant qu'était celui de Gianni Versace ?
Tout à fait, l'approche à la fois immersive et intimiste permet à cette exposition Gianni Versace rétrospective de se distinguer de beaucoup d'autres expositions dédiées à de grandes maisons de couture. Mais cette exposition en elle-même se distingue du fait qu'au-delà de la mode, c'est une exposition profondément pop culturelle.
Oui,
On est dans une plongée de l'histoire de l'art. On est également dans une véritable machine à voyager dans le temps. Gianni Versace est le couturier qui a impulsé cette ère des supermodèles.
Oui.
Il y a toute une pièce dédiée au défilé mythique avec la musique de George Michael, Freedom, avec les tenues de Carla Bruni, de Naomi Campbell, de Cindy Crawford. On a également tout le parterre de stars que Gianni Versace
Madonna
a habillé.
Madonna, entre autres.
Madonna, la princesse Diana, Tupac, Grace Jones, Prince, Elton John. Donc, au-delà de simples pièces présentées, pièces de collection, de tenues iconiques, on a véritablement un aller-retour vers cette époque un peu d'insouciance, fin des années 80, années 90, qui revient beaucoup également dans l'actualité, dans l'esthétique actuelle. Et donc, voilà, au-delà de la mode, c'est vraiment une exposition sur la pop culture de cette époque-là.
Donc, retrouver à la fois toutes ces inspirations, vous en avez parlé, hein, le punk, le pop art notamment, le modernisme italien, mais aussi toute son influence, influence sur son époque, influence peut-être aussi sur d'autres créateurs, sur ses successeurs.
Tout à fait, et même influence sur sa propre maison, parce que la... C'est là où on reconnaît les grands créateurs. La maison Versace a survécu à Gianni Versace, mais on le voit très régulièrement. Le dernier Met Gala en est l'exemple. Les pièces créées par Gianni Versace, pour une majorité, sont tout à fait encore portables. Et je pense notamment au dernier Met Gala à Sabrina Carpenter, qui a chanté dans une tenue inspirée de celle qu'on a dans l'exposition, de l'original, des Marilyn d'Andy Warhol. Donc, il est certain que ces pièces n'ont pas pris une ride.
Qu'est-ce qu'il a apporté à Paris? Qu'est-ce qu'il a apporté à Milan aussi?
Dans les deux cas, Gianni Versace a apporté un vent de provocation. Il y avait cette phrase amusante à la fin des années 80 en Italie qui disait que Giorgio Armani habillait l'épouse et que Gianni Versace habillait la maîtresse. Gianni Versace, il a fait entrer dans la mode et dans la haute couture énormément de sous-cultures. Je pense notamment à ses célèbres collections punk avec ses épingles à nourrice, avec la méduse. Il y a notamment une tenue parmi d'autres de cette collection qui a été portée par Elizabeth Hurley lors de l'avant-première de 4 mariages et un enterrement à Londres. Et cette tenue est entrée dans la légende, cette tenue qu'on appelle « that dress ».
Il avait déjà en fait cette vision et cette stratégie d'influence et de sortir du cercle de la haute couture et de la mode, d'aller chercher une clientèle et une influence bien au-delà, avant les réseaux sociaux notamment.
Mais vous utilisez le mot est tout à fait choisi. Gianni Versace a été un peu le premier influenceur de l'histoire, en mélangeant les disciplines, en mélangeant les interlocuteurs, en cherchant à toucher à chaque fois aussi une nouvelle audience. Ces imprimés dans les années 80, très opulents, très exubérants, c'était très orienté new money d'ailleurs à l'époque. Et encore aujourd'hui, le style Versace, on l'adore ou alors on le déteste. Mais c'était toute une stratégie commerciale. Gianni Versace était un immense créateur, était un génie de la mode, mais c'était aussi un redoutable homme d'affaires.
Il ouvrait avec ses collections ateliers deux fois par an au Ritz, lieu hautement symbolique, une nouvelle ère de la mode et de la consommation de la mode.
Tout à fait. Beaucoup de collectionneurs que l'on a rencontrés pour cette exposition, beaucoup de collaborateurs de Gianni Versace ont toujours le même mot à la bouche en nous disant que les défilés de Gianni Versace, c'était des concerts de rockstar. Les parterres de ces défilés, c'était des stars de la musique, des stars du cinéma. Et c'est vrai que cela, et dès Milan, dès ses premiers défilés, ça a un peu complètement chamboulé cette intelligentsia de la mode, parce que l'esthétique et également les pratiques de Gianni Versace étaient extrêmement novatrices pour l'époque.
Le show dans la salle, autant que sur le podium, il a
aussi... Et en plus, au Ritz, les shows avaient lieu sur la piscine du Ritz que Gianni Versace faisait recouvrir. Et les escaliers existent encore en marbre. Naomi Campbell, Kate Moss défilaient sur cette piscine du Ritz recouverte.
Merci beaucoup Vincent Barenèche de Caramba Culture Live pour cette immersion dans cette exposition à découvrir au musée Mayol Gianni Versace rétrospective tout l'été jusqu'au 6 septembre.
Tout à fait, au moins jusqu'au 6 septembre.
Bon, prolongation possible. Merci beaucoup d'avoir été dans Iconic Business. Tout de suite, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Et donc les désirables de la semaine dans le rétroviseur du luxe 2026 avec Éric Brionne, directeur général du journal du luxe. Bonjour.
Bonjour André.
Avant cela, les aspirations des voyageurs. On est à l'aube de l'été, ça nous passionne, le segment premium et cette étude d'American Express. Bonjour Aurélie Doudrich, vous êtes vice-présidente de France. Bonjour, merci d'être là. On va balayer avec vous justement cette étude que vous publiez. Bon, on a l'impression d'être un peu dans une évidence, mais c'est bien de le réaffirmer, c'est pas la destination qui compte à présent, c'est vraiment le moment, l'expérience. On le savait, on avait l'intuition, mais ça se confirme dans cette étude.
Exactement, Audrey. Cette étude confirme réellement qu'au-delà de la destination, qui est le choix premier initial qui se faisait auparavant, c'est l'expérience et la façon dont on la vit qui est essentielle. Quelques chiffres extraits de cette étude, par exemple. Quand on interroge les voyageurs premium sur... Quelles sont, selon eux, la définition et qu'est-ce qui marque et qui rend ce voyage inoubliable? Pour 57% d'entre eux, ça va être la découverte de nouveaux paysages, de nouveaux environnements. Également, pour 49% d'entre eux, ça va également être les expériences culturelles qui se passent sur place. On a la gastronomie, on a également les rencontres humaines. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup moins sur un voyage où c'est un point sur une carte,
oui,
mais beaucoup plus sur une expérience qu'on souhaite vivre désormais.
Alors, quand on parle du segment premium et via American Express, on parle de ceux qui ont gardé un pouvoir d'achat, qui ne se posent pas la question, ils partent en vacances.
Oui.
Plus de 8 sur 10 visent un départ cet été.
Oui.
Mais finalement, à la lecture de cette étude, ils ne vont pas si loin. Pourquoi ? Par envie ou par contexte géopolitique un peu aussi ?
Oui, ce qu'on note dans cette étude, c'est qu'il y a une vraie envie de voyager. Elle est là, elle est maintenue. 91% veulent voyager d'ici la fin de l'année. Vous l'avez mentionné, 8 sur 10 à l'été. Les destinations qui sont sorties, effectivement, sont des destinations extrêmement proches, voire même locales,
oui,
parce qu'on parle du Sud-Est, on parle de la Bretagne,
pour
la France.
Donc bon.
Exactement, on parle de l'Italie et de l'Espagne. Mais en fait, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est aussi des destinations extrêmement chargées,
oui,
en termes d'expérience. Si nous prenons la Bretagne, diversité aussi en termes de paysages, gastronomie également,
bonjour,
extrêmement locale et typique, un réseau d'hôtels de très grand standing également. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de partir extrêmement loin pour se retrouver dans cette expérience du voyage premium.
Et donc, il n'y a pas cette lecture d'être freiné par un contexte géopolitique, de traverser le monde et finalement de se retrouver un peu coincé. On projette un voyage où on sait qu'on maîtrise toute la chaîne.
Exactement. Et encore une fois, cette étude, si on regarde encore quelques chiffres, il y a 95% des voyageurs premium qui indiquent que ce qui est important pour eux, c'est d'anticiper, d'organiser, de programmer ce voyage. Ils sont à la recherche aussi de prendre le temps. De prendre ce temps est extrêmement important. Et ces destinations plus proches permettent aussi d'avoir l'ensemble de ces marqueurs. Et comme je disais, est-ce que le bout du monde est réellement ce qu'on veut ? Pas forcément quand on l'a à proximité, qu'on peut vivre ces expériences dont on se souvient.
On en a parlé dans d'autres émissions avec Éric Brionne, justement, sur ces tendances voyage. On est dans une obsession aussi d'une reconnexion à soi, du moins c'est autant un positionnement marketing pour les hôtels, etc., qu'une recherche pour le voyageur. Ouais. Des nouveaux paysages, des environnements, certes, vous le disiez, la qualité des services et les hôtels, c'est un prérequis ou c'est un déclencheur ?
Alors, je dirais, au-delà d'un prérequis ou un déclencheur, il est sûr que l'hôtel, le lieu de séjour, en tout cas, occupe une place centrale dans le choix du voyage. C'est pas seulement un lieu de séjour, c'est un lieu de vie, réellement, tel qu'il est envisagé dans le voyage premium. Et si on regarde également ce que nous dit cette étude nous indique qu'il y a 78% des clients qui souhaitent profiter pleinement de l'ensemble des services qui sont disponibles. On parle du spa, on parle de la restauration, on parle des espaces de détente. Donc, il y a une vraie envie d'être aussi accompagné dans ces moments et dans ces moments de vie. Mais au-delà de ça, je le disais tout à l'heure, l'organisation, quelque chose de fluide, quelque chose de sans friction. Il est important aussi, au-delà du standing de l'hôtel, je dirais, c'est d'être connu, reconnu.
Est-ce que vous le voyez que c'est une clientèle qui est prête à dépenser plus ? Est-ce qu'on voit un mouvement justement sur ces tendances ? Est-ce qu'elle projette plus de dépenses ?
Alors je dirais le point n'est pas tant sur est-ce qu'il projette plus de dépenses, je vais donner un exemple. Moi, c'est vrai que des fois, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour accéder à ce confort ? Et la question est réellement là. Je ne suis pas obligée d'aller à l'autre bout du monde, ce qu'on disait tout à l'heure, pour avoir un voyage luxe. Si je peux l'avoir en Bretagne avec des choses qui me correspondent et qui sont justement dans la reconnexion avec moi-même, avec cette fluidité, si ça a un prix, je pense que oui, ça peut le faire. Oui. Mais ça ne dit pas pour autant que c'est réservé à une élite.
Après, c'est très lié, corrélé à une montée en gamme inéluctable dans l'hôtellerie de manière générale. Et ce sont les segments les plus dynamiques. Une dernière tendance, un dernier mot avec vous autour des événements.
Oui.
On parlait du moment et de l'expérience. Là, clairement, l'idée d'aller à Wimbledon, l'US Open, l'AF1, ce sont de nouveaux territoires de voyage et d'expérience.
Exactement. En début d'interview, on disait, est-ce que c'est la destination qui fait le voyage ? Ou est-ce que c'est l'expérience ?
Là, c'est le moment, c'est le.
De plus en plus, c'est l'événement qui crée aussi. Là, par exemple, en juillet, on ne va pas seulement en juillet à Londres pour visiter Londres, mais également, on en profite pour aller vivre pleinement, vivre des émotions à Wimbledon, par exemple, assister à un festival de musique, par exemple le BST Hyde Park qui se tient également à Londres. Donc, c'est comment est-ce qu'on reconnecte son voyage avec ses envies, avec ses émotions, avec ce vivre, et qui est aussi un des marqueurs forts de création du souvenir.
Et puis, on ne sera pas étonné qu'il y ait autant de marques de luxe qui investissent le domaine du sport et les événements aussi pour ce genre de voyage. D'autres données, justement, des intuitions, Éric Brionne, avec une année, enfin, un semestre balayé et les mots clés pour retenir ce semestre, et notamment mea culpa. Quoi ? Ça y est, le luxe fait un mea culpa ?
Oui, et puis l'importance du mot, hein. La sémantique, c'est vraiment la star de 2026 et le référencement IA-GEO n'est pas pour rien. Avoir des mots-clés, c'est extrêmement fondamental. Donc le premier, mea culpa. En effet, ce qui est formidable, on a vu cette crise du luxe qu'on a analysée depuis 2 ans.
Oui.
Et du coup, le luxe ne fait pas, le voit les problèmes en face. Et donc, il y a vraiment une notion de mea culpa avec une violence dans les mots absolument unique. Donc on ne fait pas l'autruche. Alors j'ai quelques citations très rapides. Liane Resta, PDG de Audemars Piguet, nous avons été en tant qu'entreprise, et là elle parle du secteur horloger dans son intégralité, très paresseux à l'époque où la croissance était facile pour tout le monde. Bon, alors elle est passée en hyperaction sur la collaboration impéçoise, je suis pas sûr qu'elle
ait oui. Voilà. En termes d'intuition, là on sait pas, mais
voilà. Autre interview très intéressante de Delphine Arnault. Nous sommes très prudents sur les prix. Nous ne pouvons pas vraiment augmenter le prix d'un produit sans augmenter la perception de la qualité. Intéressant. Et là, du coup, Jonathan Anderson, sur la même interview, va plus loin. Avec quoi le luxe a vraiment du mal aujourd'hui, c'est la valeur des personnes talentueuses qui fabriquent, donc les petites mains. Nous avons aujourd'hui une réaction presque viscérale par rapport au luxe. Intéressant sur cette relation. Et encore plus fort, là, du côté de Kering, là, où Cédric Charby, donc CEO de Saint-Laurent, nous n'avons pas été assez bons pour retenir nos clients. Si c'est pas un mea culpa, je ne sais pas.
Mea culpa d'une part, brutalité d'autre part, un terme brutal. On est quand même loin des codes traditionnels du luxe.
Et totalement, puisque là, c'est le management de Luca Di Meo qui se définit en tant qu'outsider. Et donc l'outsider, il va bouger les lignes. Alors, un florilège sur ces 6 premiers mois de Luca Di Meo. Et c'est intéressant parce que ce mot brutal, c'est justement Cédric Charby qui décrit le management. Et il en a bien besoin, entre guillemets, du groupe Kering, de changer les lignes. Alors, des exemples, pour être une marque de luxe, il faut gagner de l'argent, sinon je les exclus du système en 2 ans.
Donc, on sent l'industriel.
Ici. Dans le luxe, ils n'ont jamais connu de crise, ils manquent de muscles. Puissants, ici. Et une dernière, j'aime beaucoup. Quand j'entre dans certaines boutiques Gucci en Chine, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère.
D'accord. Bon, ça veut dire qu'il y a une to-do list aussi hein, pour les maisons de luxe. Et on a vu que se redessinait aussi une géopolitique des luxes. On en parle de plus en plus d'ailleurs.
Exactement. Alors une géopolitique avec, on va dire, deux axes. Déjà, l'axe chinois, clairement, avec vraiment là, 2025-2026, c'est l'avènement des marques de luxe chinoises. Alors là où Pugold est bien sûr présent ici, mais on voit de plus en plus le Parti communiste chinois vouloir utiliser luxe comme une arme de soft power, très nouveau. Et de l'autre côté, enfin les deux concurrences, hein, on voit le luxe et des blocs, ici le Yalta, du côté américain, clairement, bah, c'est le triomphe du smart luxury américain, un premium. Donc certes, on a Ralph Lauren, mais on oublie toujours Coach, et simplement un élément, Tapestry, qui n'a simplement que deux marques, hein, c'est Kate Spade et Coach, qui arrive à chatouiller la capitalisation du groupe Kering. Donc quelle performance ici.
On va balayer rapidement ces mots qui nous accompagnent depuis janvier 2026 avec l'euphoria bashing également.
En effet, oui, alors euphoria était très attendue, la saison 3. Une euphoria qui était une saison, une série adorée par les marques de luxe parce qu'elle capturait la génération Z dans tous ses mystères. Bon, alors, du coup.
Et ses névroses.
Et voilà, et ses névroses. La saison 3, elle n'est pas très sur la génération Z, elle est sur les tourments du monde contemporain. Et l'audience est bonne, mais le bashing est total. On adore détester Euphoria. Et il y a eu une collaboration qui a fait un peu grincer des dents. C'est la collaboration entre Bottega Veneta et Euphoria qui habille Ned Jacobs, le personnage joué par Jacob Elordi. Alors, c'est un entrepreneur travaux publics en faillite, mais qui porte un ensemble à $40,000, Bottega Veneta. Donc là, en termes de construction de personnages, authenticité, ça sonnait
faux. Oui, là, en termes de justesse, on n'était pas tout à fait dessus. Blasimania, parce que c'est un nom qu'on a retenu.
Ah oui, mais c'est un des rares faisceaux positifs dans ces mots-clés ici. Bah, c'est le succès de Blasi, hein, tout simplement, Mathieu, chez Chanel. Mm-hmm. Et intéressant qu'elle se construit au nom, on l'a vu, on l'avait analysé, de cette joie. Le luxe émotionnel, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose quand on l'a clairement défini. Là, c'est la joie. Et ce qui est formidable, c'est que cette joie, elle est à la fois dans les communications, dans les défis, et maintenant en boutique. Donc, il a réussi à transférer cette joie en expérience concrète. Et les magasins sont pleins et les résultats sont excellents chez Chanel.
Oui, il a réussi assez rapidement. Il était attendu au tournant. On terminera avec l'ère post-croissance. Bon, les moins euphorique là.
Voilà, on finit par du négatif. Enfin, c'est vrai que les analystes financiers qui sont les premiers influenceurs du luxe sont dans un pessimisme aigu. Et c'est vrai que, ben, toujours, la Chine reste un moment, une tension ici. Mm-hmm. Et ce qui est un peu effrayant, c'est les résultats de vente avril-mai qui viennent de sortir, où là, on est en moyenne à moins 20%. Même un Miu Miu qui est arrivé à surperformer est négatif. Et ça, c'est clairement l'effet de nombreuses fermetures de boutiques et donc de chômage qui va avec. Aujourd'hui, en Chine, la post-croissance, que ça veut dire moins de points de vente, mais plus fort, plus large, plus grand.
Bon, ça oblige à se réinventer. Merci beaucoup, Éric Brionne, Iconic Business, le luxe par BFM Business, tous les vendredis à 21h en radio et télé, dès à présent, évidemment, sur le site et l'app BFM Business.
Iconic Business, le luxe by BFM Business.